Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'entreprise Manivelle qui se situe à l'entrée de Die. Et à mes côtés, Nicolas Brandt. Bonjour.
Bonjour Yves.
Alors nous sommes ici pour découvrir cette brasserie de version 2 après celle de Romeillé. Pour toi, avant tout, qu'est-ce que ça a amené cette nouvelle implantation?
Ben, de la sérénité, c'est-à-dire qu'on est passé d'un lieu qui était compliqué, qui nous a quand même permis de nous monter pendant presque une dizaine d'années pile poil, pour arriver sur une nouvelle plateforme où tout est conçu en fait pour le monde de la microbrasserie. Et en plus, qui nous aura permis d'ouvrir une petite antenne pour l'accueil et la dégustation de nos produits, un peu plus digne de ce nom que dans nos anciens locaux.
En comparaison, c'est du simple au double ou plus ?
En termes de capacité de production ? Alors en termes de capacité de production, effectivement, on est capable de faire deux fois ce qu'on faisait là-haut. Le but étant surtout en fait de retrouver une vie familiale. Parce qu'avant, on produisait en flux tendu et c'était quasiment au jour le jour pour être très précis. Alors qu'ici, sur le nouveau site, en fait, ça nous permet de travailler seulement deux jours par semaine en brassin et de faire quasiment qu'un tiers de plus que ce qu'on faisait en production annuelle sur l'ancien site.
Et donc, vous avez pris ce bâtiment que je connaissais auparavant, qui était un lieu de stockage aussi avant tout.
Oui, qui était une ancienne entreprise de BTP qui appartenait aux établissements Marquionnier.
Et donc, un aménagement avec une façade complètement refaite, en planche de bois. Si je comprends bien aussi, pratiquement tout ce qui est ici a été produit grâce à des artisans ou des producteurs du coin.
Exactement, en fait. On est parti en fait dans l'optique en fait, de travailler avec des artisans complètement diwa. Chose qu'on a réussi à tenir à quasiment, c'est un chiffre au hasard, mais entre 80 et 90%. Dans le sens où c'est l'entreprise BCB à Borrières qui nous a fait l'intégralité en fait, des plans, de la conception, mais aussi de la réalisation, en travaillant avec que des entreprises DIY, c'est-à-dire que même l'électricité, ça a été fait à DIY par les entreprises BESA, la plomberie, c'était les entreprises Combé. On a retrouvé que des artisans locaux et en fait, on s'y retrouve parce que maintenant, on a une communication très facile entre tous ces artisans et nous.
Ça permet aussi une préservation des finances au niveau local.
Ça coulait de source en fait de faire travailler des locaux. On est des artisans, on se bat pour le goût, le terroir et aussi une façon de faire contre justement les grands et ne pas faire travailler des entreprises du coin en sachant que le DIY a quand même de fabuleuses entreprises. Ça serait un petit peu dommage de partir dans une autre direction.
Donc la Manivelle adepte de l'économie solidaire et économie circulaire.
Surtout des circuits courts et aussi solidaires, c'est-à-dire que nous, on est quand même une équipe de 5, on se bat tous les jours pour ce genre de raisonnement. Nous, en brassin, on essaye de trouver des actions le plus locales possible. Nos orges sont français, mais aussi je pense aux commerciaux qui ont quand même des stratégies de développement qui soient rhône-alpines, en gros, qui appartiennent à une région et comme je disais avant, à un terroir tout simplement, quoi.
Alors on va aborder le processus de fabrication de la bière Manivelle. Oui. Et pour commencer, on va parler de l'eau.
Bien sûr. L'eau, c'est notre célèbre source du Railly qui a la chance de distribuer la ville de Die en intégralité et dont on se servait dans nos anciens locaux. Et c'est ce pourquoi aussi on a pris nos nouveaux emplacements dans nos nouveaux bâtiments pour ce choix-là en fait qui était évident, c'était de garder cette eau qui apporte à la Manivelle en fait une trace qui est unique en fait, c'est une trace olfactive et le fait d'avoir changé cette eau, ça nous aurait complètement changé nos bières.
L'eau étant là, il faut y ajouter les matières premières. Donc ici, nous sommes devant les entrepôts des grains d'orge et puis principalement d'orge.
Oui,
pour l'instant.
Malte d'orge, oui, exactement. Ça, après, c'est une chose dont on n'a jamais changé. On a toujours tourné sur les mêmes idées. On a testé pas mal de malteries, dont des malteries en France, en Allemagne, en Belgique, la malterie du château avec laquelle on continue bien sûr de travailler. Aussi des malteries beaucoup plus proches comme le Malteréco qui se trouve en Ardèche mais qui a fait faillite il y a quelques mois. Toujours dans le but en fait de travailler avec des orges français, bio ou d'origine raisonnée, parce que les deux ne sont pas forcément faciles à trouver à 100% dans l'année. Du coup, il y a ces deux optiques-là qui sont les nôtres en fait, qui sont là depuis le début et qui résonnent de façon forte, parce qu'en fait c'est aussi avec l'eau qui est la source du raï adi, notre seconde en fait trace qui fait que la manivelle a ce goût-là actuellement, quoi.
Donc là, il y a une première salle de stockage oui. des matières de grains d'orge et de malt d'orge.
Oui, qu'on appelle le grenier, oui.
Et ça, c'est une première étape donc de réception. Et ensuite, nous passons à une autre salle où sont stockés les malts d'orge qui vont être traités dans les 4 mois qui suivent.
Exactement, en fait. On a une grande salle de stockage qui représente quand même 150 mètres carrés, elle toute seule, pour stocker les quasiment 30 tonnes que l'on passe par an. Pour être ensuite divisé dans une salle beaucoup plus petite, mais qui a l'avantage d'être très bien desservie et de façon à être nettoyée au jour le jour, pour qu'on puisse en fait les concasser pour les brassins du lendemain, quoi.
Il y a plusieurs variétés de malt d'orge. Il y en a en état naturel et puis d'autres, tu me disais, torréfiés.
Oui, exactement. Mais en fait, pour même plus préciser, on utilise environ 15 variétés de malt d'orge, mais pas que d'orge, parce qu'on utilise aussi ici de l'avoine et du blé, mais toujours malté. Dans le but de créer de plus en plus de bières diverses et variées, mais aussi des nouveautés, et qui nous permettent justement de faire, comme dans toutes les brasseries d'ailleurs, avoir des maltes qui sont blancs et qui ont des vocations à faire des blanches ou des blondes, et des maltes qui vont être plus torréfiées, voire extrêmement torréfiées, pour devenir en fait des brunes, des ambrées, et des bières un petit peu plus spéciales.
Tu peux expliquer le processus du grain à l'état de malt? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
La différence entre de l'orge et du malt, c'est un métier qui est avant le nôtre et qui est tout aussi complexe que le monde de la microbrasserie, et qui appartient à ce qu'on appelle des malteries, qui prennent de l'orge dans les champs, qui le font sécher, et préalablement d'ailleurs, c'est pas exactement ce que je voulais dire, en fait ils le font tremper dans de l'eau afin qu'en fait il puisse germer. Une fois que ce germe il est sorti, ils vont stopper la germination comme une germination artificielle, pour faire sécher ce grain. S'il est séché et non torréfié, il nous parviendra blanc et comme les saveurs le présentent dans les champs, donc on va dire originel. Et plus il sera torréfié, plus il sera un petit peu caramélisé, un petit peu carbonisé. Quand je dis carbonisé, c'est ce qui va ressembler aussi à des torréfactions qui se rapprochent du café.
Et c'est ce qui donne les bières brunes?
Exactement, en très faible proportion. C'est-à-dire que même pour faire une bière brune, on utilise quand même une grande quantité de malt blanc, ou pas que blanc d'ailleurs, torréfié de façon assez faible, pour arriver à 5 ou 10% de malt complètement noir, pour justement faire, pour citer un exemple à la brasserie La Manivelle, la Black IPA, qui est une bière assez corsée et assez extrêmement noire.
Il y a plusieurs types de bières, hein, la blonde, la blanche, l'ambrée, la brune, peut-être d'autres en plus. Chaque bière donc a des spécificités de grains particuliers.
Oui, tout à fait. Comme je vous le disais juste précédemment, mettons qu'on prenne une blanche, en fait, nous ici on brasse avec 3 grains d'eau de blanche, c'est-à-dire orge, blé et avoine. Mais dans ces 3 configurations, c'est tous des orges, blé, avoine qui n'ont pas été torréfiés mais juste séchés.
Qu'est-ce qui amène justement cet aspect trouble de la blanche?
Ah, ça c'est nos petits secrets de fabrication, ça serait un peu compliqué de tout dire, mais en gros ça réside dans l'utilisation des levures et des températures de fermentation, sans aucun ajout de toute façon, parce que les seules choses que nous on ajoute dans nos blanches, ce sont des épices, et qui n'apportent aucun trouble. En fait c'est vraiment tout dans la magie du brassin et la façon dont les levures vont transformer le produit qui est juste une soupe amère à l'origine en une bière légère, fraîche et blanche.
Alors dans cette salle de stockage de deuxième phase, il y a ce concasseur donc.
Alors ça justement oui, c'est juste la phase qu'on disait juste après le grain, où en fait c'est même la première phase du brassin, c'est-à-dire que nous la veille on va prendre de 400 à 600 kg pour faire 2000 litres, selon le degré d'alcool de la bière, parce que vous imaginez bien que plus une bière est légère, moins on met de grains, et plus une bière est forte, plus on va avoir tendance à mettre de matière première pour relever le degré d'alcool. Du coup, en fait, cette petite phase dure une heure et demie. En fait, si on prend du grain, on le concasse dans un concasseur, tout simplement, qui va tomber dans un silo tampon. Et en fait, ce silo tampon va nous permettre de démarrer le lendemain matin très tôt, la phase de brassage. Et ça, c'est l'étape qu'on va parler après, mais c'est une étape qui nous prend quasiment 7 à 10 heures.
Voilà, et donc nous allons passer à la salle suivante pour retrouver le silo tampon. Ah, changement d'ambiance et de son aussi.
Exactement, c'est vrai qu'on arrive dans une salle de brassage qui est un peu inédite chez nous, parce que c'est vrai que c'est le grand changement entre l'ancienne brasserie et maintenant. Tout est de plein pied, donc avec des machines un petit peu, même carrément récentes, et qui nous offrent des possibilités quasiment infinies au niveau de la fabrication. Quoi. Donc pour en revenir au silo tampon, le grain est tombé la veille dans ce fameux silo, et le lendemain matin, Stéphane ou moi, mais principalement Stéphane ces derniers temps, prend la charge du brassin et démarre en fait le processus de brassage. Donc en gros, le grain va tomber dans de l'eau chaude, va être réhydraté, va être brassé, d'où le terme brassage, par une grande hélice, qui va cuire pendant 2 heures à différentes températures pour créer ce qu'on appelle en fait la phase d'empattage. Et ensuite, on va séparer le grain du liquide dans une cuve qui est munie d'un tamis, d'un filtre, même si je préfère le mot tamis, pour séparer le grain du liquide, pour qu'on puisse justement récupérer ce jus, qui est juste un jus de malt, encore à cette phase de fabrication, pour retourner dans une cuve où on va monter la chaleur, le faire bouillir quasiment de 60 à 90 minutes, selon le type de bière, selon plein de petits paramètres qui seraient trop longs à expliquer ici, pour amériser le produit. Et c'est à cette phase-là qu'on va rajouter nos houblons, et des houblons qui ont plus de force du côté amérisant comme du côté aromatique. Après cette fabrication-là, cette petite étape, on va refroidir le mou, qui est en gros la soupe amère que l'on vient de créer grâce à l'orge et au houblon, pour le transférer dans des cuves de fermentation, où l'action en fait, qui va se passer dedans va être faite tout simplement par des levures à bière qui vont manger les sucres présents pour le transformer en alcool et en CO2.
Pour ça, vous avez un panneau d'ordinateur qui permet d'afficher justement toutes les cuves avec les températures internes. C'est un réel progrès, l'apport du numérique aussi dans cette gestion.
Ah oui, énormément, parce que en fait, c'est rigolo qu'on aborde le sujet, mais comme tout artisan, comme toute personne qui travaille de ses mains, et globalement, en fait, on a des journées qui sont quand même assez longues, et souvent la surveillance des produits implique qu'on doive revenir les week-ends, et souvent tard le soir ou très tôt le matin, ce qui m'est arrivé pendant de longues années. Et en fait, ça nous retire un poids et surtout une faiblesse, c'est qu'avec ce genre de technologie, on a moins de bêtises, moins d'erreurs sur les produits, donc des produits aussi plus constants et plus faciles à sortir. Quoi.
C'est une entreprise qui a installé ce système logiciel. Est-ce qu'il y a une part d'eux aussi à gérer dans la durée ?
Alors en fait, la partie logicielle est installée par notre fabricant de matériel, qui est tout simplement Coenco en Belgique. Et pour préciser la question, en fait, c'est des outils qu'ils installent parce que justement, ils essayent aussi de simplifier un peu la vie des brasseurs. Quoi. Alors ça a un coût, certes, mais... Pour vous donner un ordre d'idée, nos journées sont passées de quasiment 14h, 14h30 de travail de brassage par jour à quasiment 7 ou 10, qui est colossal en termes de repos. Quoi. Et qu'on vit très bien, je vous assure.
Donc là, ensuite, il y a environ une dizaine de cuves de stockage.
Oui,
de
exactement. Ouais. On peut stocker 32 000 litres ici dans cette salle de brassage. Alors quand je dis stocker, bien sûr, c'est des stocks tampons. On entend par là que nous, on produit quand même quasiment, et ça c'est de façon aléatoire, 15 bières à l'année. Donc pour avoir justement du stock sur chaque référence en permanence, et je dis bien quasi en permanence, on est obligé d'avoir un gros stock à la base pour arriver justement à pallier au manque, et surtout aux sorties.
Ce processus prend un certain temps, donc je crois de 20 jours.
Alors oui. On peut même préciser, la journée de brassage, comme je vous l'ai dit, c'est une journée de brassage, c'est entre 7 et 10 heures de brassin, suivi de quasiment 11 à 12 jours de fermentation selon, et je dis bien selon le type de bière que l'on va faire, suivi d'une période de garde en fait à froid qui dure quasiment aussi 20 jours chez nous, pour arriver à un produit fini sorti de salle chaude et prêt à la vente quasiment 50 à 55 jours plus tard. Donc une rotation complexe à mettre en œuvre. Mais qui fait aussi tout le travail du brasseur au quotidien. Quoi.
Et puis il y a ensuite un autre processus d'une vingtaine de jours, ça sera après la mise en bouteille.
Ça, dans les chiffres que je viens d'annoncer, justement, c'était inclus. C'était 50 à 55 jours avec tous les processus. En gros, il faut 41 jours très précisément de cycle dans les, enfin, de brassage dans les cuves, de fermentation et de garde jusqu'à l'embouteillage, plus la dizaine ou la quinzaine de jours qui suivent avant la vente en rayon, quoi.
Ce que je vous le voyais, c'est aussi au niveau des cuves de cuisson, il y a ces hôtes, c'est-à-dire que les vapeurs s'évacuent par là ?
Non, pas du tout, parce qu'en fait, ça c'est un petit leurre. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des cheminées qui servent à cacher les moteurs qui servent d'agitateurs, d'où le terme brassage. En fait, on brasse le produit quasiment en permanence. Et en fait, pour une question d'élégance, ces cuves ont été dotées de ces jolis petits chapeaux en inox pour imiter justement les anciennes, et aussi c'était la culture des brasseries, c'est-à-dire qu'il y avait des cheminées, mais elles n'ont pas le but d'évacuer les vapeurs, parce qu'en fait toutes les vapeurs dans la brasserie ici sont condensées avec de l'eau pour retomber en fait dans des bacs, pour éviter justement l'humidité et le fort taux d'humidité dans la pièce.
Et puis l'odeur aussi, non ? Je me souviens, moi, j'habitais à Metz, il y avait la bière Amos qui se fabriquait à côté de chez moi, et à chaque fois qu'il y avait des cuissons, il y avait une odeur dans tout le quartier.
Qu'on retrouve ici aussi.
Oui.
Ça les ralentit, ça les stoppe pas. Après, c'est des odeurs que nous, on aime se lever le matin avec une odeur de cérelle qui nous rappelle le petit déjeuner. C'est franchement très agréable. Arrivé à midi, quand vient l'ébullition, on rajoute le houblon. Là, c'est une odeur qui devient presque suave et presque dérangeante au début de l'ébullition, mais qui devient tellement gourmande à la fin de la sortie du produit que c'est des odeurs qui nous collent au métier. Qui sont notre identité. Quand les gens viennent visiter une brasserie, ils sont même contents d'avoir ces odeurs au jour le jour. Après, c'est sûr qu'au quotidien, il faut s'y faire. C'est quelque chose avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de force.
Maintenant, nous arrivons à l'étape primordiale, c'est-à-dire la mise en bouteille. Nous sommes devant cette embouteilleuse, on dit ça comme ça ?
Oui, une ligne d'embouteillage, exactement, ou une embouteilleuse, les deux termes se disent. Et ça fait partie aussi du petit processus dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire qu'au 41e jour, en fait, la bière sort de sa propre cuve, arrive dans un mélangeur en fait, où on rajoute une toute petite dose de sucre afin en fait, de réactiver le travail des levures pour qu'une fois le produit mélangé est dans la bouteille et encapsulé, on puisse la remettre au chaud. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la phase de deuxième fermentation, où prise de mousse pour que le produit devienne gazeux et avec tout le CO2 et tous les arômes que apporte la deuxième fermentation.
À quel endroit sur cette machine, à quel moment est injecté le sucre ?
Alors c'est avant la mise en bouteille. Si on veut se déplacer un petit peu dans la salle, on aperçoit qu'on a un mélangeur qui est juste derrière, qui est une grande cuve qui ressemble à un fermenteur d'ailleurs, qui n'a quasiment aucune différence, sauf que le produit tourne sur lui-même avec douceur. Et en fait, au moment où on va le transvaser, on va d'abord récolter tout le moût ou la bière quasiment finie dans cette cuve, rajouter une petite dose de sirop de sucre que nous, on prépare ici, bien sûr, toujours avec la même façon, avec des matières bio et raisonnées, pour qu'on puisse le mélanger, que le produit soit homogène, avant qu'on puisse le rentrer justement dans la ligne d'embouteillage, pour que chaque bouteille soit aussi identique. Ça, c'est une question d'homogénéité, quoi.
Voilà, avec une contenance jusqu'à 4600 litres pour ce processus.
Exactement, ouais. Après, ça peut être souvent, comme ici à la brasserie, on a des cuves en 4000 litres et 2000 litres. Ça nous arrive fréquemment en fait, de brasser deux fois la même bière dans deux cuves différentes. Et pour éviter en fait, des va-et-vient, on transfère les deux cuves dans le même mélangeur pour aussi un gain de temps phénoménal à l'embouteillage, pour pouvoir faire qu'une seule journée d'embouteillage et pas deux, quoi.
Nous sommes dans une salle qui fait environ, je dirais, 200 mètres carrés à peu près.
Presque, 230.
200.
Presque précis.
Oui. Et donc, là sont les cuves, et puis ensuite, nous avons accès à des passerelles qui nous amènent à d'autres salles, à l'étage.
Oui, oui, oui. En fait, j'avais le projet, en fait, de me lancer il y a très longtemps, et on n'est pas que, enfin c'est pas que la manivelle, hein, c'est vraiment un phénomène qui touche beaucoup de microbrasseries en France et qui est un phénomène génial à mon sens. C'est que faire vieillir des bières en barrique, c'était très important à mes yeux, et ça fait partie aussi des bières qu'on aime présenter dans nos locaux, mais pas que, j'entends par là aussi chez les cavistes un petit peu de spécialité, afin de présenter des bières qui soit plus racé, mais aussi plus, comment dire, plus vieilli et qui apporte une dimension nouvelle, une dimension inédite. Faire des brassins complètement loufoques qui peuvent partir vers l'acide comme vers le sucré, des mélanges, des décompositions. Et du coup, en fait, cette salle-là est d'une grande importance pour nous. C'est qu'on fait vieillir depuis un an ici à la brasserie des bières qui vont être présentées en 2021, 2024 et 2027. Je vous dis ces chiffres parce que c'est assez précis. C'est des barriques qu'on a déjà remplies et qui vont sortir à ces dates-là pour présenter des produits qui seront vieillis ou en fût de cognac ou en fût de Rivesalt pour certains, vin rouge, Apple Brandy, Armagnac et bientôt on aura Porto et bien d'autres.
Ce processus de faire fermenter la bière dans des fûts qui ont contenu d'autres alcools, est-ce que c'est un processus qui est déjà connu d'antan et que vous essayez de renouveler ?
Alors, c'est un processus qui est connu depuis la nuit des temps, que toujours toutes les petites brasseries, même voire certaines grandes, font à merveille. Mais comme je vous le disais avant, ça apporte une dimension moi, que je trouve géniale à la bière. Et qui a été peut-être perdu pendant une trentaine d'années en France, mais qui revient de plus belle. Et c'est vrai que dans le monde de la microbrasserie artisanale, on est au bas mot quasiment 1000-1500 en France actuellement, et il y a au moins 200 ou 300 brasseries qui font la même chose avec du vieillissement et qui font des produits extraordinaires de partout. Pour en avoir goûté certains, c'est vraiment des produits grandioses.
Et leur distribution se situe à quel secteur ? C'est votre propre magasin, parce que vous avez votre propre fonds de commerce, mais vous opérez aussi par dépôt dans des centres de distribution.
Oui, alors il y a plusieurs stratégies. Nous, on fait quasiment, je dirais, 10 à 15% de notre chiffre d'affaires sur place, donc quand même quelque chose d'assez conséquent pour une petite boîte comme nous. Le reste est vendu dans des cafés, des hôtels, des restaurants, des épiceries que vous pouvez connaître, comme le Vivaldi, mais aussi le Super U, les Intermarchés. Quand j'entends Intermarché, uniquement celui de Die. Le reste, en fait, c'est que du caviste, que du magasin spécialisé. Je pense aux caves Nicolas qui nous ont fait rentrer il n'y a pas longtemps, justement, pour vendre les produits vieillis en foudre. Parce qu'eux ont la possibilité de le vendre en ville, et c'est des produits qui se vendent plus facilement dans des milieux urbains que ruraux. Voilà. Mais ça, c'est une partie que je trouve dommage parce que justement, il faudrait inverser la tendance.
Et le rayonnement actuellement de la Manivelle est au niveau régional ou plus loin encore ?
Non, principalement sur la région Rhône-Alpine, Auvergne-Rhône-Alpes, depuis que les deux ont fusionné. Et de temps en temps, on fait des one-shots, région PACA, Belgique, je pense à la Suisse, mais ça reste de l'occasionnel, ça reste quelques fûts, quelques bouteilles pour un événement, pour un concert, pour une soirée dans un bar spécialité, ou pour un concours, mais ça reste de l'occasionnel. Et notre projet, justement, c'est de rester une brasserie régionale avec un savoir-faire de terroir, c'est-à-dire présenter des produits qui nous ressemblent, et puis ça fait déjà une sacrée aventure, croyez-moi, quoi.
Alors toutes ces bières, parce que vous en avez 15, c'est ça,
ouais, de
différents types.
On en a 15 en compteur, on en a beaucoup plus dans nos grimoires, mais 15 en fait qu'on essaye de sortir à l'année. Ça veut dire, dans l'année, j'entends qu'il peut y avoir de janvier à mars, il peut y en avoir que 11, et en tout, en 15 sur l'année, parce qu'on ne les sort pas toutes à la même époque.
Tout en essayant de garder une constance de fabrication.
Oui, bah ça c'était... Je conçois pas le travail autrement que par la rigueur de l'artisan. Un artisan, il est là pour justement promouvoir un produit et faire en sorte qu'il soit le meilleur possible avec ses compétences à lui. Et contrairement aux industriels qui ont tendance un petit peu à bâcler ce processus pour des raisons financières, mais qui sont un autre sujet.
Alors vous parliez de grimoire à l'instant, ça nécessite des connaissances en alchimie et pour ça vous étudiez de futures bières.
Oui, oui, bien sûr, mais ça on l'a toujours fait, enfin on l'a toujours eu fait, même au développement de la brasserie initiale, parce que initialement on avait créé justement presque 137 recettes à la base qu'on avait fait avec des amis qui ne sont plus à la brasserie actuellement. Et qui, en fait, par le temps, nous semblait logique de continuer. C'est-à-dire qu'on a créé même un petit laboratoire où Quentin Lançon, qui habite ici à Die, s'occupe de cette partie, va nous concevoir et il nous conçoit actuellement en fait des levures, mais aussi des études sur nos produits pour qu'on puisse les changer, les améliorer, faire toujours un petit peu mieux au quotidien.
Alors concevoir une levure, certes, à titre expérimental, ça doit être relativement simple, je dirais, mais pour la produire en quantité, comment ça s'opère ?
Voilà, c'est le plus grand travail qui va être opéré ici, c'est-à-dire que faire une souche de levure occasionnelle, très simple, parce qu'il suffit de trouver la souche idéale, de la muter avec une autre, on en fait une deuxième qui naît, on fait un brassin, pas de souci, c'est très facile. La reproduire dans le temps, ça va être tout le travail de Quentin pendant les années à venir, justement, c'est de trouver la solution pour que notre souche reste notre souche sans qu'il n'y ait aucune altération ni modification dans le temps. C'est un travail complexe d'études, de laboratoire. Alors moi, je travaille en collaboration avec lui, mais c'est plus sa partie parce que lui est plus formé que moi là-dessus, mais nous apprend tous les jours des choses épatantes.
Il y a aussi de la levure entreposée dans une chambre froide, je dirais.
Oui.
On l'appelle comment précisément ?
En fait, c'est de la levure à bière qui sont stockées dans des étuis hermétiques, justement, pour qu'il n'y ait aucune altération. En fait, il faut considérer la levure comme à être utilisée dans un environnement stérile. Donc si on pollue l'atmosphère, si on pollue le brassin, si la cuve n'est pas tout à fait propre, mais pour des milliers d'autres raisons, cette souche de levure aurait... En fait, elle va travailler dans le temps différemment. Donc on va créer une bière, la deuxième fois, on va en créer une deuxième, mais pas tout à fait pareille. Et ça, c'est le plus gros travail du brasseur, c'est d'arriver à trouver la constance. Ou alors faire du one shot, faire des bières qui sont complètement farfelues, loufoques et peut-être un petit peu trop fun pour certains, mais qui nous permet aussi de faire des tests grandeur nature pour savoir où on va aller dans les années futures, où on va aller dans les expérimentations. Mais on a besoin en fait de cette expérience pour continuer.
Et puis il y a le houblon qui va amener son amertume.
Oui, amertume et aromatique.
Qui est stocké également.
C'est ça, qui sont toujours stockés en chambre froide en fait pour justement éviter l'altération.
Une mise en sommeil en quelque sorte, comme pour la levure.
Oui, exactement. Mais surtout que le houblon en fait s'oxyde beaucoup plus vite et craint l'oxygène, donc du coup il est conservé dans des étuis hermétiques et souvent sous vide pour éviter justement que les molécules et surtout la petite lupuline qu'elle contient s'abîme.
On va passer à l'entrée.
Oui.
Donc là, avant l'entrée, peut-être qu'on aborde aussi le lieu de stockage des bouteilles.
Sûr,
donc,
hein.
C'est la salle de prise de mousse, c'est-à-dire la bière à l'état mise en bouteille, donc, et qui suit un autre processus de fermentation.
Oui.
Qui va finir par amener du gaz carbonique, en somme.
Exactement. Mais en fait, comme le dit bien son nom, nous, on fait des bières en double fermentation. Donc, il y a une fermentation principale qui se joue en cuve, et essentiellement en cuve, sauf pour la triple où il y en a une deuxième, mais ça c'est parce qu'on utilise des levures qui sont adéquates. Et justement la prise de mousse, d'où refermentation en bouteille pour que le produit devienne mousseux, donc gazeux, et être prêt à la consommation. Et en gros c'est la phase qui va précéder les expéditions et aussi quelques vieillissements si nécessaire.
Voilà. Et la température de la salle de prise de mousse est constante également ?
Oui, exactement. Bah, après, ça, c'est des chiffres qui varient de micro-brasserie en brasserie, mais en gros, c'est une salle qui est autour des 25 degrés perpétuels, à peu près. Mais ça peut varier.
Et puis ici, nous sommes dans la partie expédition. Donc, sont entreposées des palettes avec les bières par rang de noms. La mise en fût, justement, comment ça s'opère ? C'est un autre système ?
Non, c'est exactement la même manière que le... Nous, ici, à la brasserie, on travaille avec une seule et unique méthode, qui est la nôtre et celle de bien d'autres microbrasseries, c'est la refermentation directe. On ne fait pas d'adjonction de CO2 ni d'adjonction de gaz, qui pour nous est un non-sens dans l'artisanat. On utilise des méthodes traditionnelles, comme je vous l'ai dit, le rajout de sucre pour la réactivation des levures. Et dans les deux cas, que ce soit bouteille ou fût, ou même un autre conditionnement dans la brasserie, restera toujours la seule et unique opération.
On peut passer à la partie...
La partie accueil. Le truc de l'année. Pour nous, c'est génial. Je sais pas si tu imagines ce qu'on a attendu comme année avant d'arriver là.
Voilà, et nous sommes donc dans la salle d'accueil très très fraîche. Très agréable Et donc il y a un comptoir, quelques échantillons de produits locaux aussi en vente.
Oui, oui, oui. On a essayé d'ouvrir cette année, malgré les effets du Covid, un lieu qui soit accueillant, chaleureux et qui soit disponible pour tous. Et du coup, bah, on est quand même parti un petit peu moins fort que prévu. Du coup, on vend quelques produits locaux, des t-shirts, des chips de l'Ardèche, des fromages qui viennent du coin aussi, des saucissons et des charcuteries que Diwa Salaison nous ramène toutes les semaines, dans un lieu qui sera bah, à la hauteur de ce qu'on a pu faire cette année, c'est-à-dire avec les moyens du bord. On a conçu le bar et toute la décoration nous-mêmes, moi, je vais dire grâce au Covid, mais c'est un mot qu'il ne faut pas retenir, parce que ça nous a permis de nous dire, avec le peu d'argent qu'on a dégagé pendant cette période, de tout faire nous-mêmes. Et le résultat est plutôt satisfaisant.
J'en reviens. Donc ici, vous proposez à la vente vos productions, mais aussi c'est un lieu qui permet d'organiser parfois des rencontres, notamment ce soir, je crois, non ?
Alors, notamment ce soir, oui. Tout ça, en plus, c'est très bien qu'on en parle. En fait, on ouvre le lieu avec, comme idée, justement, c'est de faire des soirées à thème. Alors, plus ou moins, ça peut être de la musique, ça peut être un food truck comme la soirée de ce soir, où la note gourmande va se déplacer de Cré pour venir faire des burgers à la manivelle. Nous, on fournit les boissons, eux fournissent en gros, on fournissent les burgers. Et l'idée à terme, justement, ce serait de créer un vendredi par semaine pendant la saison, peut-être une fois par mois pendant la saison morte, des événements qui font que les gens locaux, mais aussi d'ailleurs, je ne pense pas qu'au tourisme, mais je pense vraiment à nous, Diwa, puissent avoir un lieu, un endroit où on puisse venir, parler, jouer, jouer à la pétanque, faire un barbecue, privatiser le lieu parce qu'on est 5 et 6 et on a envie de faire un mariage. Pourquoi pas, en fait, toute idée est bonne à prendre. Et c'est les années à venir qui vont construire ce lieu et faire ce qui va devenir. En fait, c'est des choses qu'on n'a pas vraiment écrites. C'est des choses qui vont se créer d'eux-mêmes et qui font toute la particularité du lieu. Mais ça, c'est des choses à découvrir. En tout cas, pour ce soir, ça va être la première. Et là même, je dis même une bêtise, ça va être la deuxième. Parce que la semaine dernière, on a fait venir Carl Anton qui, avec sa batte mobile qu'il appelle la patate volante, où il faisait des frites maison. Et pour renouveler l'expérience cette semaine, ce vendredi soir, avec un food truck de Cré pour faire des burgers. Donc, si vous voulez venir passer un bon moment, on est là.
L'espace qui est ici maintenant, parce que je crois que la totalité du terrain, c'est pas loin d'un hectare. Hein.
Oui, ouais, exactement. Alors ça, c'est un espace en fait, qui va être aménagé, conçu, comme je vous le disais, dans les années et dans les mois qui viennent. En fait, il sera toujours en construction. C'est quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure du temps, en fonction des envies du moment, mais aussi des saisons. Si par exemple, l'été prochain, on a envie de faire pousser une houblonnière, ce qui est un petit peu le projet, c'est des choses qui vont prendre forme. On va faire, bien sûr, intervenir une houblonnière locale. Il y en aura même deux, parce qu'il y a l'oublionnaire de Boulk et l'oublionnaire de Montlore qui vont venir nous aider sur place. Chose aussi qu'on réutilise dans notre production actuelle, donc on a même des houblons locaux qu'on utilise dans nos bières et qui vont venir décorer le site pour qu'on puisse justement mettre un petit peu de cachet et de chaleur au nouveau lieu.
Je reviens au malt. Le processus de malt, c'est suffisamment difficile pour que vous ne puissiez pas encore vous-même le faire.
Le maltage, c'est la grande question qui revient tout le temps dans les visites. Le maltage, alors là j'engage que ma parole. En fait, le maltage, c'est une science quasiment plus compliquée que celui de la brasserie. Et pourtant, on ne peut pas se dire qu'on n'a pas de quoi s'occuper ici. Et qui, à mon sens, a gardé chez les malteurs. Pourquoi ? La malterie, c'est une centaine de paramètres à suivre. C'est énormément de pression vis-à-vis des récoltes. Nous, ici, on a déjà eu l'idée, on a déjà eu des tests. C'est des choses qui, pour avoir un retour qualitatif constant, et non, notamment, là, je pense à Maltereco en Ardèche, qui ont fait faillite récemment, sont des choses extrêmement dures à gérer. Extrêmement. Et je félicite même les brasseries, et moi je trouve ça génial, comme la brasserie des Trois Becs, qui est une de nos brasseries voisines, qui a réussi justement à faire les deux opérations tout en gardant un semblant de vie derrière, ce qui n'est pas mon cas.
De là à penser qu'on puisse travailler, vous puissiez travailler avec des producteurs de céréales dans le Diwa, ce n'est pas encore d'actualité.
Bah, ça l'était, parce qu'il y avait justement Maltoreco qui était en Ardèche et qui s'était vraiment rapproché du territoire. Il y en a d'autres qui se montent, mais je pense que la microbrasserie a eu un engouement ces 10 dernières années. La malterie artisanale a forcément suivi, mais en retard derrière nous. C'est comme si en fait elle avait 2, 3, 4 ans, je ne sais pas. C'est des chiffres qui vont évoluer avec le temps, mais qui vont arriver. Donc il faut leur laisser le temps. C'est comme les houblonneries locales, en fait. Elles n'étaient pas là il y a 3 ans, elles sont là maintenant, mais ne sont pas tout à fait prêtes. C'est comme si nous, on était en tête de cortège. Et que les autres suivent. Et ils arrivent, donc on les attend. Ils sont là, c'est des intervenants locaux qu'on attend avec impatience. C'est quelque chose de même de grandiose, mais qui mérite encore un peu de travail. Exactement dans le même cas, si on fait un retour en arrière de la brasserie La Manivelle, 8 ans en arrière. C'est des choses qu'il faut appréhender avec patience, quoi.
On aborde un sujet plus délicat, c'est l'impact de la Covid sur l'activité. Vous vous en sortez plutôt comment ?
Bah, c'est le Covid. Le Covid, ça a été le coup de massue mi-mars. Parce que de mi-mars à la fin mars, on a fait quasiment 100% d'arrêt. Ce qui pour nous a été, l'ensemble des artisans que je salue à travers ce discours... C'est une période en fait dont personne ne sait parler exactement. Pour nous, c'était 90%, 100% d'arrêt pendant 15 jours. Puis on est redescendu à 80%. Ça a remonté à 60% au mois de mai. Le mois de juin a très bien redémarré, mais on sauvera pas les meubles avec ça. La période d'arrêt pour nous, c'est colossal. C'est 2 mois et demi. Habituellement, c'est là qu'on fait nos stocks pour vendre l'été. On savait pas sur quel pied danser comme tout le monde. On savait pas si le Covid allait se maintenir ou baisser. D'ailleurs, il baisse, tant mieux. Mais on ne sait pas s'il ne va pas revenir plus tard, donc on ne peut même pas dire qu'on soit sauvé. Pour l'instant, comme tout artisan, comme tout producteur, comme tout magasin, comme grand magasin, je pense à tout le monde, ont été tellement impactés qu'on ne peut pas vraiment dire qui va rester et qui va enfin, c'est chiant à dire, mais y rester à la fin, quoi.
Malgré le maintien d'ouverture des grandes surfaces qui proposent aussi vos boissons, je voulais savoir, finalement, ça dénote que la bière, c'est une boisson de convivialité.
Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que les grandes surfaces, quand je parle grandes surfaces, nous, on ne travaille pas avec des grandes surfaces, hormis l'Intermarché de Die. On travaille plutôt dans un circuit court, comme on l'a précédemment évoqué. Ça nous a quand même aidé. Parce qu'ils ont été là et sans eux, on n'aurait vendu rien. Et une entreprise qui tourne à plein régime au mois de mars, avril et mai et qui a besoin de faire de la production, c'est des milliers d'euros de perdus dans le sens où ce qui n'est pas vendu n'est pas produit parce qu'on ne peut pas se surcharger. Il a fallu qu'on arrête l'entreprise. On ne pouvait pas continuer de produire, continuer d'avoir des charges qui sont quand même assez colossales dans le monde de la microbrasserie. Pour ne pas savoir ce qu'allait se passer derrière. On a fait ce choix-là, on a attendu, on a fait comme tout le monde, je l'imagine. Il y en a qui ont fait des choix peut-être plus judicieux que d'autres, mais on est encore là, et j'espère que le Covid ne se repointera pas l'hiver prochain, où là, la base risque d'être très 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 compliquée à passer.
Nicolas Brandt, nous allons bientôt nous quitter. Avant de partir, vous avez un site internet qui oui. Montre un petit peu votre entreprise.
Exactement. Là, on a la société Corrigan Adi qui a fait notre nouveau site internet qui est disponible depuis plus d'un mois. Donc, vous pouvez le retrouver sur www.lamanivelle.beer, comme en anglais, B-E-E-E-R. Et comme ça, vous pouvez découvrir un petit peu tout notre monde. Tout est expliqué dessus. À vous de découvrir.
Une question encore par rapport à cette production. Est-ce que vous arrivez dans une espèce de corporation au niveau européen de distribuer quelques quantités dans des, par exemple en Belgique, est-ce que vous avez des échanges comme ça de dépôts ?
Non, on a des échanges très simple, on parle de nous entre nous, c'est-à-dire que même les brasseries en Belgique communiquent avec nous, les brasseries allemandes j'en connais peu, mais suisses et italiennes quelques-unes. Il y a beaucoup d'échanges de ce côté-là, après au niveau échange financier, non, c'est pas d'actualité entre les artisans en tout cas. On est plutôt un milieu, un microcosme assez particulier, c'est que le monde de la microbrasserie, on est des artisans et on vit un peu dans une bulle. Voilà, c'est on essaye de ne pas grandir, on essaye de le faire avec le moins d'impact possible, on essaye de le faire avec le plus logique possible, on essaye de le faire avec le plus de sincérité et d'humanisme aussi.
Une question importante, la bouteille. Donc, c'est, si j'ai bien compris, ce sont les mêmes contenants que ceux de la Clairette.
Oui, on a toujours tourné en bouteille champenoise. On ne souhaite surtout pas changer. Il n'y a que la gamme 33 centilitres qui est bien sûr différente, mais la champenoise pour nous c'est notre identité. Et là, je pense même, je fais un petit clin d'œil à Laetitia et à Bastien de la bascule et de la cavale, parce qu'on a fait ce choix-là justement à Die et dans les alentours de tourner avec une bouteille qui ressemble au Diwa. Et c'est un petit clin d'œil à nous tous.
Au niveau du recyclage de verre, je crois comprendre que ce n'est pas trop possible.
Si.
Ah si,
si
parce que j'avais entendu que tout ce qui est bouteille avec pression, des fois, était fragilisé par les manipulations et que parfois, elle ne résistait pas au choc.
Oui, alors ça a extrêmement évolué. Et depuis, il y a une association qui s'appelle, une entreprise qui s'appelle Ma Bouteille, qui s'appelle Revient, à Chabeuil, qui a monté justement un projet de recyclage, mais aussi de pouvoir récupérer les bouteilles chez les producteurs, mais aussi dans les magasins locaux, mais aussi dans la région, afin qu'eux puissent les laver et les redistribuer. Du coup, nous, on commence officiellement vendredi prochain avec des Palox, et nous, on s'est proposé avec, et là je parle au sein de toute l'équipe, avec la possibilité d'offrir aux Diwa et aux entreprises diwaises le fait de pouvoir déposer des bouteilles qui ne soient pas uniquement les nôtres. J'entends par là déposer des bouteilles de champenoises, 75 centilitres, celles qu'on utilise, les 33 centilitres qu'on utilise, mais aussi, pourquoi pas, des bocaux de miel, des bouteilles à contenant jus de fruits, pour que l'association Ma Bouteille S'appelle Revient puisse les récupérer à Chabeuil et que nous, on devienne point de collecte.
Pour finir, on rappelle un peu cette soirée donc, qui commencera à quelle heure ?
Ben alors là, ça va commencer bientôt, puisque ça se rapproche. Ça va commencer à 17h pour finir à 21h30 avec une soirée en fait tout simple. C'est la note gourmande de Cré qui se déplace pour vous faire des bons burgers. Nous, on va essayer de faire un bon service et une bonne animation autour.
Donc j'invite les auditeurs à éteindre leur poste et de se rendre immédiatement à l'entrepôt de la Manivelle, qui est situé où précisément ?
Alors il est situé au 5 impasse de la Clairette. En gros, quand vous partez du centre-ville et que vous allez en direction de Valence, dès que vous passez le rond-point du Lidl, 50 mètres après, vous tournez à droite et vous allez au fond de l'impasse. Le parking est ouvert, il y a des places pour les vélos, pour les voitures, il y a un espace de retournement. Tout y est, on vous attend.
Nicolas Brandt, merci bien de nous avoir donné un peu de temps pour présenter donc la Manivelle.
Merci, à très bientôt.
Bonne soirée.